Voilà donc, Yann nous propose de lire dans Luc, dans le chapitre 24, Luc 24, des versets 13 à 32. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait d'un chemin et nous expliquait les Écritures ?» Merci.
Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole avec simplicité, avec une ouverture d'esprit, avec honnêteté. Et donne-nous, Seigneur, de serrer ta parole sur notre cœur pour qu'elle puisse porter des fruits aujourd'hui, cette semaine, jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à dans l'éternité. Nous nous demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez vu que j'ai mis ma belle cravate écossaise ce matin. Hein? Il y a 3000 clans différents en Écosse. Hein? Ça, c'est le clan des Stuart. Un clan, c'est tous ceux qui ont des terrains en Écosse. Et chaque Écosse dit, mais cette montagne est à moi. Il y a 3000 personnes qui ont dit, cette montagne est à moi. Et dernièrement, Françoise et moi, nous sommes allés en Écosse. Et puis, nous sommes promenés dans les montagnes. On était à Edinburgh et nous avons pu visiter aussi la maison de John Knox à Edinburgh. C'est sur un grand boulevard qui monte, si vous connaissez l'Écosse, qui monte jusqu'au château. Et c'est un personnage vraiment exceptionnel. Et j'aimerais vous parler de quelques personnages et on va y arriver au texte biblique, c'est vraiment l'essentiel. Mais nous avons rencontré dans notre vie, chacun d'entre vous, vous avez rencontré des personnes dont le cœur brûlait. Hein. Et le thème de ce week-end, pour moi, était le cœur. Hein. Et nous allons terminer, enfin moi je vais terminer donc, ce matin mes interventions, et je vais vous parler des cœurs qui brûlent pour Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons été impressionnés et touchés par des personnes qu'on a rencontrées, parce qu'ils avaient le cœur qui brûlait pour Jésus. Hein. Et ça vous a touché, si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus. Et moi, je suis là aussi parce que j'étais touché par mes parents, mon père, il avait 9 magasins de poissons. Hein. Ça sentait le poisson dans la maison, dans la voiture. Et lorsque notre famille arrivait à l'église, ça sentait le poisson. Hein. Et lorsque la famille Nubéré n'était pas là, on sentait la différence. Vous avez compris. Hein. Et moi, j'étais influencé par mes parents et mon père. Ce n'est pas un homme public, il n'a jamais prié en public, mais il se mettait à genoux pour prier tout le matin. Et avant d'aller donc au marché, je travaillais avec lui pendant un an, il était impossible, enfin bref, ça ne durait qu'un an. Et dans la famille, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de travailler avec les parents. Enfin moi, j'ai travaillé un an, et ce qui m'impressionnait, c'est tout le matin, avant de partir au travail, on se mettait à genoux pour prier. Il reste à genoux une demi-heure et il prie pour le voisin, il prie pour des personnes de l'église, il prie pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Et je veux vous encourager vraiment à transmettre la piété, la prière, l'amour pour la parole de Dieu à vos enfants, à vos petits-enfants. Hein. C'est un investissement pour l'éternité. Et c'est le meilleur moyen d'évangéliser le monde, c'est par la famille, vous êtes d'accord? Et je veux vous encourager dans ce sens, même si votre famille n'est pas chrétienne, à continuer à persévérer dans la prière pour eux. Parce que c'est quelque chose qui reste, et je n'ai parlé aussi de ma grand-mère qui avait un visage rond comme un ballon, un sourire de banane. Elle était passionnante et elle avait le cœur qui brûlait hein, pour le Seigneur. Et bien sûr, dernièrement, je me suis penché sur l'Écosse, parce que l'Écosse, c'est un des pays du monde là où il y a plus de réveils dans le monde. Et je suis allé donc dans la maison de John Knox, et John Knox est un personnage atypique, tout à fait spécial. Si vous allez à Genève, et chaque fois quand je vais à Genève, au centre-ville, il y a un grand jardin, il y a le mur des réformateurs, peut-être vous êtes déjà allé là-bas, et vous allez voir le grand géant, Calvin, et à côté de lui, il y a un petit bonhomme, et bien c'est John Knox. Hein. C'est un petit géant. C'est l'homme de fer. On connaît l'homme de la femme de fer, mais ça, c'est l'homme de fer. Hein. Et tout le monde avait peur de lui. Et c'est écrit sur sa tombe, ici repose un homme qui craignait le visage de personne. Et c'est le premier pasteur donc, protestant. Et si vous allez à Genève, il écrit sur le mur, je l'ai noté, j'ai même pris des photos, cet homme avait une voix plus forte que 500 trompettes, qui jouait à la fois. Il avait une voix très puissante. Hein. Il craignait donc le visage de personne. Et vous savez, à ce moment dans l'histoire, en 1572, Marie Stuart voulait imposer donc, la religion catholique aux Écossais. Il n'était pas question. Et vous savez qu'à ce moment-là, on brûlait les protestants. Hein. Et John Knox, donc, il est devenu chrétien. Suite à une personne qui était brûlée vif, donc c'est George Wishart, donc en 1546, qui était brûlé vif comme un hérétique sur la place publique à St. Andrews. Et John Knox était là, et lui était protestant. Il voulait être un pasteur protestant. Et il a demandé de voir et d'avoir un entretien, j'ai même un livre, des grands livres qui sont très anciens, avec l'entretien qu'il y a eu entre John Knox et Marie Stuart, et paraît-il que la reine de l'Écosse à cette époque craignait plus les prières de John Knox que l'armée anglaise, vous avez compris hein? Et lorsqu'il commençait à parler, elle commençait à pleurer, elle avait tellement peur. Et quand je suis allé donc dans sa maison, John Knox, c'est une petite maison, elle est vraiment superbe, je suis allé à l'étage, il y avait même des vêtements de John Knox et son chapeau, on peut vous le mettre, je me suis pris en photo. Je ne suis pas John Knox, mais vraiment c'est quelqu'un qui brûlait pour le Seigneur, le cœur qui brûlait au-dedans de lui. Et il avait une vision très simple. Il dit, ma vision pour moi, c'est de, dans chaque ville, dans chaque village en Écosse, d'y mettre une église et une école. Et si vous allez aujourd'hui en Écosse, vous allez trouver plusieurs églises dans la même ville. Par exemple, dans notre village, enfin, c'est une ville de 10 000 habitants, il y a 8 églises évangéliques. Incroyable. Hein? Et aussi une école. Et c'est grâce donc, à ce travail donc, de John Knox, qui est un homme, aussi un homme de prière remarquable. Vous voyez ici sa maison. Si jamais vous allez en Écosse, enfin, je fais la publicité pour l'Écosse aussi en même temps, hein, vous voyez. Hein. Donc, vous le voyez ici. Et c'est à côté donc, du château d'Edinburgh. Un autre personnage écossais, on reste toujours en Écosse, hein, c'est David Livingstone, 1813 à 1873. Il était médecin, poète, explorateur, missionnaire, un des premiers missionnaires qui est allé en Afrique. Et sa devise était très simple. Je vais aller n'importe où pour Dieu, pourvu que ce soit en avant, pour annoncer l'évangile. Sinon, je ne vais pas y aller. Et c'est un homme remarquable. Et nous avons visité, il y a un musée aussi sur tout le travail et la vie aussi de David Livingstone, donc près de la ville là où j'habitais en Écosse. Et lorsqu'on lui a posé une question, avant de répondre, il disait, est-ce que c'est pour le bien de l'Afrique? Est-ce que c'est pour le bien de l'Afrique? Et si oui, je veux le faire. Et c'est un homme vraiment de Dieu remarquable. Et il est enterré à Westminster Abbey, donc à Londres. Je ne suis pas là pour vous parler des Écossais, parce que si vous remontez l'histoire, vous allez trouver dans votre histoire hein, des hommes et des femmes de Dieu qui avaient le cœur qui brûlait. Hein. Et tous les jours, je lis des livres concernant l'origine de Réveil. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est quelle est l'origine de Réveil? Comment est-ce que moi, je peux avoir le cœur qui brûle aussi? Et peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà le cœur qui brûle. Mais parfois, on a besoin de ranimer la flamme. Ce n'est pas vrai. Parce que la flamme peut baisser. On peut beaucoup regarder les autres. On peut regarder nous-mêmes. On se décourage. Et ce matin, je vais vous montrer comment Jésus, il a pu ranimer la flamme. Et dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que les disciples, ils avaient le cœur qui brûlait au-dedans d'eux. Et à travers l'histoire, si on remonte l'histoire, bien sûr, on trouve des personnages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et dans l'histoire, il y a bien sûr, il y a Jean Calvin, il y a Farel, il y a Jean Hus, l'histoire des Huguenots, etc. Il y a peut-être Ruben Sayens, qui a fondé donc le corps biblique de Nogent, sauf erreur. Hein. Et puis il y a Jacques Blocher, et même Jules-Marcel Nicole, peut-être vous connaissez ces noms, c'était des hommes de Dieu remarquables qui ont un impact dans la famille d'abord, dans leur église et aussi en France. Et à cette liste, vous pouvez aussi ajouter votre nom. Ça fait plaisir, hein? Vous pouvez ajouter votre nom parce que Dieu est aussi, il veut que notre cœur, il brûle pour le Seigneur. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le réveil? Qu'est-ce que le réveil? Eh bien, le réveil, c'est un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Hein. C'est lorsque vous êtes dans la voiture, il fait très très chaud, et puis tout à coup, on va mettre la clim. Ça change tout, hein. Ou même dans votre maison. Hein. Un réveil, c'est un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. C'est dans Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Et aussi, nous lisons dans les textes, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Nous lisons donc dans le texte, dans le verset 32, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Ils disaient l'un à l'autre, le disciple, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? J'aimerais vous poser la question, comment est-ce que ça peut avoir lieu? Comment est-ce que ça peut avoir lieu? Parce que le contexte ici, c'est juste après la crucifixion. Et c'est dans Matthieu, on nous donne des détails. Lorsque Jésus était sur la croix, la voile du temple s'est déchirée en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Il y a eu un tremblement de terre. On a du mal à imaginer cela. Et le rocher va se fondre en deux. Des tombeaux vont s'ouvrir aussi. Et des personnes vont sortir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment une scène terrible. J'aurais dû être terrifiant. Et puis, nous voyons dans ce texte de Luc, il y a trois parties. On voit le tombeau vide. Donc, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste par la résurrection. Il y a le chemin d'Emmaüs, verset 12 à 32. C'est la présence de Jésus lorsqu'il va s'entretenir avec les disciples. Et puis, verset 33 à 53, c'est le mandat pour l'évangélisation du monde. Le mandat pour l'évangélisation du monde. Dans ce texte, nous rencontrons des personnes qui nous ressemblent. Il faut imaginer que vous aussi, vous êtes sur cette route. Sur cette route d'Emmaüs. Et les disciples, ils avaient de quoi discuter. Ils avaient peur pour leur vie. Ils avaient le cœur brisé. Ils étaient comme des orphelins, car Jésus était parti. Ils étaient dépassés par les événements. Ils ne savent pas où se donner la tête. Ils sont un peu sonnés. Et si vous regardez attentivement le texte, dans le verset 11, ils avaient des sentiments d'incrédulité. Parce qu'on va lui annoncer la résurrection, mais ils ne vont pas le croire. Et pourtant, Jésus l'avait déjà dit, il l'avait annoncé. Dans le verset 12, ils sont dans l'étonnement. Dans le verset 17, ils sont dans la tristesse, la déception. Dans le verset 24 de ce même chapitre, pour eux, c'est un échec parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir comme libérateur politique. C'est un échec pour eux. Et dans le verset 37, ils sont dans la frayeur et dans l'épouvante et dans le doute. Ça peut nous arriver, hein? Ça peut nous arriver de passer par là. De vivre des échecs, de passer par des circonstances difficiles. Et on tourne la page. Ils vont rencontrer Jésus. Et il dit dans le texte, ces personnes-là sont complètement transformées. Il dit dans le texte, ils avaient le cœur qui brûlait au-dedans d'eux. Une autre version dit, nous avons eu l'impression qu'un feu brûlait dans notre cœur. Vous êtes passé par là, hein? Vous êtes passé par le réveil, parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Ce n'était pas hier ni avant-hier. Hein? Et moi, je me suis converti quand j'avais 7 ans dans la cuisine de ma grand-mère. Hein? J'ai reçu le Christ dans mon cœur. Hein? Et peut-être qu'il y a des personnes ici, vous n'avez pas encore reçu le Christ dans votre cœur, vous pouvez le faire ce matin. Peut-être que vous lisez la Bible, peut-être que vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Eh bien, on devient chrétien lorsque le Saint-Esprit et Jésus entrent dans notre cœur et nous transforment d'une puissance qui ne nous appartient pas. Et ça fait brûler notre cœur. Et vous êtes, vous les chrétiens, vous êtes passés par là. J'en suis sûr. Et on peut se poser la question, comment cette transformation a pu avoir lieu? Eh bien, ça commence avec notre cœur. Hein? De sonder notre cœur. De incliner notre cœur et de l'ouvrir. Et de laisser Jésus nous donner un cœur qui est différent. Un esprit, son esprit à l'intérieur de nous. Vous êtes passé par là lors de votre conversion. Le jour de votre baptême, vous vous souvenez? Vous étiez tout feu flamme, tout feu, tout flamme. Et vos parents étaient là, l'église était pleine. Vous vous souvenez quand vous avez témoigné pour la première fois à quelqu'un de votre foi? Vous vous souvenez quand vous avez eu des réponses à la prière? À ce moment-là, votre cœur brûlait au-dedans de vous. Et puis après, hein, 20 ans après, 30 ans après, hein, vous savez, avec l'expérience, on connaît tout ça. Et il y a eu des moments dans notre vie, pour François et moi, lorsque notre cœur brûlait au-dedans de nous. Hein. Et pour ceux qui étaient là hier soir, et peut-être je vais vous montrer une image à la fin. Nous avons pu visiter donc le bateau d'opération mobilisation. C'est une personne, Georges Verwer, qui est encore vivant aujourd'hui, va venir à Montpellier donc le 24 novembre. C'est une personne qui a une vision pour évangéliser le monde. Et Dieu a mis sur son cœur le projet de prier pour que Dieu lui donne un bateau. Et Dieu lui a donné 4 bateaux. Et sur ces bateaux, il n'y a que des chrétiens qui vont de pays en pays pour évangéliser le monde. Même dans certains pays qui sont plus ou moins fermés, le bateau est là-bas, dans le golfe Persique. Et Dieu a donné 4 bateaux différents, le Logos 2, le Doulos, et puis le Logos Hope, le grand bateau, avec 450 personnes, pour l'évangélisation du monde. Et moi, j'ai prié pour ce projet, et Françoise et moi, il y a quelques années, on est allés sur ce bateau. On a vu, dans l'espace de 15 jours, 74 000 personnes venir sur le bateau pour être évangélisés, les musulmans. C'est pas merveilleux? Vous n'êtes pas content? Ce n'est pas encourageant? Parce qu'il y a une personne qui avait le cœur qui brûlait au-dedans de lui. Frères et sœurs, il ne faut jamais sous-estimer ce que Dieu peut faire avec une personne ordinaire qui ouvre son cœur. Il peut bouleverser le monde parce que Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alors, on va revenir à notre texte. Et nous allons voir comment cette transformation a pu avoir lieu. Et nous voyons, si vous regardez attentivement le texte, il y a des étapes. La première étape, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et pourtant, ils ne voyaient pas clair, ils étaient lents à croire, ils étaient dans le désespoir. Mais Jésus, il va s'approcher d'eux. Quel encouragement pour nous de savoir que Jésus s'approche de nous ce matin. Et c'est dans l'épître de Jacques qu'il est dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et voilà la racine du réveil. C'est une prise de connaissance de la réalité, de la présence et de la puissance de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit avec nous et pour nous et en nous. Et c'est gagné. Vous savez, il y a quelques années, je suis allé en Corée du Sud pour une conférence Billy Graham sur la prière et suis resté 10 jours. Et tout le matin, je visitais les églises. Et j'ai entendu dire qu'il y a un grand réveil là-bas, dans ce pays, pas seulement dans les églises charismatiques ou pentecôtistes, je suis allé plutôt dans les églises conservatrices, et je suis allé dans les églises méthodistes, je suis allé dans les églises de frères, dans les églises libres, etc. Et je suis allé à 6h30 le matin, et le pasteur nous dit, excusez-nous frère, on est seulement 3000 personnes à la réunion de prière ce matin. Je dis, mais c'est pas grave, hein. Chez nous, à Pierre-Latte, on est 3. Hein. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Il ouvre là une porte et j'ai vu 3000 personnes à genoux en train de prier avant d'aller au travail. Alors j'ai dit, et le lendemain, je suis allé dans une autre église. Le frère me dit, excusez-nous, frère, on est seulement 3005 personnes à la rue. Mais je dis, mais c'est pas grave, hein. J'ai l'habitude maintenant, hein. Et j'ai visité 10 églises. Et j'ai dit à un pasteur, mais donne-moi un morceau de réveil pour mettre dans ma mallette, parce qu'en France, ce n'est pas pareil. Alors il dit, je vais vous donner un petit schéma. Vous prenez avec vous. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vous mettez un grand cercle par terre. Et vous écrivez à l'intérieur, Dieu, il est là. Vous sautez dedans et vous êtes en plein réveil. Alors je dis, mais ce n'est pas assez compliqué pour les Français, parce qu'ils aiment bien les choses qui sont complexes et compliquées. Il dit, bien, je vais vous donner un deuxième schéma. Vous prenez un grand triangle, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, et vous écrivez à l'intérieur, Dieu, il est là. Vous sautez dedans, et le réveil a commencé. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis revenu en France, parce que j'étais dans un travail d'implantation d'église, j'ai démarré une réunion de prière à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, et aujourd'hui, il existe une église là-bas. 6 ans plus tard, on est allé à Pierre-Latte, et j'ai fait un stand sur le marché pendant 28 ans, tous les vendredis matin, même quand il pleuvait, même quand personne n'achetait mes Bibles, hein, j'étais là. Et Dieu, il a béni. Et nous avons commencé donc une église avec 2 personnes. Et nous sommes partis de cette église il y a 5 ans. Et moi, je me suis dit, mais si moi je pars, l'église va s'effondrer parce que les gens, ils aiment bien mes prédications et tout ça. Je suis un peu fier. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'on est parti, l'église a grandi. C'est décourageant. Parfois, on pense qu'on est indispensable. Et que si ce n'est pas nous qui faisons Dieu... Non, Dieu n'est pas limité. Et si vous pensez que vous êtes indispensable, vous prenez un verre d'eau, vous remplissez avec de l'eau, vous mettez votre doigt dedans. Après, vous retirez votre doigt. Et s'il y a un trou dans l'eau, vous êtes indispensable. Personne n'est indispensable. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? C'est seulement de savoir ce matin que Dieu il s'approche de nous et que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est le début du réveil. Et notre cœur doit commencer à brûler maintenant parce que Jésus, il s'approche de nous. par son Esprit Saint. Nous avons prié pour ce week-end. Moi, je priais. Et Dieu, il veut agir maintenant dans votre cœur. Jésus, il s'approche d'eux. Non seulement Jésus, il s'approche d'eux, mais Jésus, il s'intéresse à eux. Ça, c'est beau, ça. Nous lisons dans le verset 17. Il a dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Car ils avaient l'air attristés. C'est lorsque vous allez vous joindre à une conversation, vous n'êtes pas très au courant, et puis parfois, pour s'introduire, de quoi est-ce qu'il vous parlait? Et Jésus, il s'intéresse. Ça, c'est beau, ça. Jésus, il s'intéresse à chacun d'entre eux, de ses préoccupations. Et chacun d'entre nous, peut-être ce matin, nous avons le cœur lourd, et Jésus, il veut nous décharger. Il veut qu'on dépose nos fardeaux. Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, verset 28. Et c'est Jésus qui va nous porter. C'est Jésus qui va agir à l'intérieur de nous. Cette puissance qui ne nous appartient pas. Qui va faire commencer à brûler notre cœur. On se laisse porter par Jésus et par sa puissance. C'est comme lorsque vous êtes dans l'ascenseur après avoir fait le magasin. Hein, et vous savez, c'est bientôt Noël et puis je dois aller avec ma femme faire le magasin, lécher les vitrines, j'ai horreur de ça. Hein. Parfois, on revient avec rien. Hein. Et, enfin, bref, je suis un mari obéissant. Hein. Je suis ma femme, c'est moi qui ai la carte bleue, c'est moi qui la garde. Hein. Et je suis toujours content, surtout à Noël, qu'on a acheté tous les cadeaux. On est enfin dans l'ascenseur, je suis épuisé, j'en peux plus. Et elle me dit, attends, j'ai oublié un cadeau, on va y retourner encore. Bon, on revient dans l'ascenseur, et qu'est-ce que je suis content? C'est le point culminant de la journée, j'appuie sur le bouton, parce que je ne veux pas monter les escaliers maintenant, hein, je suis fatigué. Et je me laisse porter par une puissance qui ne m'appartient pas. C'est formidable ça, hein, cette sensation, quand ça marche sur l'ascenseur. Mais il est important de savoir que lorsque on va déposer nos fardeaux à Jésus dans la prière, on se laisse porter par une puissance qui nous appartient. Par Jésus, il s'intéresse à eux, il s'approche d'eux, et puis ce n'est pas fini. Jésus, il va faire route avec eux. Il va faire route avec eux. Il ne va pas nous rencontrer et puis partir, débrouillez-vous. Non, Jésus, il reste avec nous en permanence par la puissance de son esprit. Jésus, il est passé par là. Jésus était tenté en toutes choses. Jésus, il a souffert. Il est passé par le découragement aussi. Il était abandonné. Jésus, ce n'est pas Superman qui arrive. Vous avez vu le film de Superman ou de Batman? Il arrive et puis après, il part. Mais Jésus, il vient, il reste avec nous, il reste en nous. Par la puissance de son esprit. Jésus, ce n'est pas Superman, mais c'est le divin médecin, le grand psychologue qui reste avec nous en permanence. Et puis non seulement cela, c'est Jésus, et vous allez voir que ça devient de plus en plus difficile. Jésus, il va leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et dans les églises, parfois, les gens, ils aiment bien qu'on les caresse gentiment, qu'on dise des belles choses. Mais il faut arrêter tout ça, parce qu'on est là pour annoncer la vérité. On est là pour annoncer la repentance. Et là, je ne parle pas seulement pour les non-convertis, mais aussi les chrétiens. Il faut les appeler à la repentance, pour que notre cœur puisse brûler à l'intérieur de nous. Et Jésus, il nous parle aussi ce matin. Et Jésus, dans les textes, il va leur dire des choses dont ils ont besoin d'entendre. Il dit ceci aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus, il veut nous parler aussi ce matin, personnellement. Même si on n'a pas envie de l'entendre, on a besoin d'entendre certaines choses. Il y a certains péchés, tous les péchés, il faut les abandonner. Et Jésus nous demande de prendre une décision. Il veut prendre la commande de notre volonté. Pour que nous puissions connaître le réveil. Il va dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et qu'est-ce que Jésus entend de vous dire ce matin? Concernant vos pensées, concernant vos habitudes, concernant ce que vous faites avec votre corps dans le secret. Tout ça, c'est très, très intime. Mais Jésus, il nous parle de cela. Il nous demande aussi d'agir. Et puis, Jésus, il va expliquer, il va faire route avec eux, et puis il va expliquer les Écritures. Et vous savez que dans l'Écriture, il y a des choses parfois qui sont un peu difficiles à recevoir, parce que dans le Nouveau Testament, il y a des lettres aux églises, et les églises, ils ont besoin d'entendre certaines choses, hein, même si on n'a pas envie de l'entendre. Et à l'église de Philadelphie, on va dire, mais votre problème, vous avez peu de puissance. Et il y a une autre lettre à une autre église, à la lettre de Sardes. Vous êtes passé pour vivant, mais vous êtes mort. Et là, j'aimerais vous poser une question. Combien de personnes sont devenues chrétiens dans votre église l'année dernière? Je ne vais pas vous demander de lever tous les nouveaux chrétiens. Ou peut-être il faut remonter au 18e siècle, je ne sais pas. Hein. Mais il faut quand même réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons vraiment la feu pour l'évangélisation? Est-ce que nous avons la compassion pour les âmes? Est-ce qu'on ne doit pas peut-être jeûner et prier et demander à Dieu de nous renouveler et de nous donner une compassion pour les âmes? Et bien sûr, il y a une autre lettre, une autre église, la lettre à Éphèse, l'église d'Éphèse, ils ont abandonné leur premier amour. Ou bien l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, tu es ni froid ni bouillant, etc. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire à votre église sur le plan communautaire? Peut-être il faut prier et demander une direction claire pour que nous puissions avoir un impact et pour que nos cœurs brûlent ensemble. C'est une chose quand une personne a le cœur qui brûle, mais lorsque c'est plusieurs personnes qui ont la flamme dans le cœur, c'est merveilleux, c'est pas vrai? Jésus explique les Écritures. Et dans le verset 27, il est dit, en commençant par Moïse et par les prophètes, il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Pas seulement les passages qu'ils aiment bien, mais dans toute la Bible. Et ils vont être donc bouleversés. C'est ainsi que la flamme est allumée dans le cœur. La parole écrite, la parole prêchée, la parole annoncée, la parole expliquée, la parole proclamée, c'est complet. C'est toute la parole de Dieu. C'est un enseignement christocentrique. On ne va pas mettre de côté certains passages qu'on n'aime pas trop parce que ça nous gêne dans les discussions. Non, on va le mettre au centre. On va régler le problème, on va écouter la parole de Dieu. Donc ainsi, leur cœur va brûler. L'étincelle de feu dans le cœur, c'est parti. Et il y a quatre choses. Il y a le contact direct avec la parole de Dieu. Il y a la communion avec le Christ. On peut dire le contact direct, c'est la lecture de la parole. Il y a la communion avec le Christ, c'est la prière. Il y a la compréhension de cette parole, c'est avec les autres. Ce n'est pas tout seul qu'on prend la parole de Dieu, mais c'est avec les autres. Est-ce que vous croyez à la puissance de la parole de Dieu? Un jour, j'étais dans un train, et même avant d'aller dans le train, quand j'étais plus jeune et plus zélé, je prenais avec moi une boîte de traités, hein. J'ai un grand chariot, ce n'est pas un diable, mais c'est un diable converti. Hein. Et chaque personne me dit, merci un diable qui est avec toi, c'est le diable converti parce qu'il me rend des services. Et quand je fais mes séminaires, j'ai toujours une boîte supplémentaire. Je distribue des traités à tout le monde dans la gare. Et puis quand j'étais dans le train, j'étais un vieux train il y a quelques années de cela, j'étais content, j'étais épuisé, j'avais fait un séminaire, j'étais content de moi parce que j'ai évangélisé toute la gare de Lyon. Hein. Et puis il me restait 6 traités. Et le Saint-Esprit me dit, maintenant tu donnes des traités à des gens qui sont dans le wagon. J'avais envie de faire plutôt une sieste, moi. Et je dis, non, je ne donne pas, Seigneur, je ne donne pas, parce que les gens en face de moi, c'est des non-voyants, des aveugles. Hein. On ne donne pas des traités. C'est une page de la Bible, la vérité à des aveugles. Hein. Et je fais tout le trajet, j'ai témoigné, j'ai parlé de ma foi à des personnes qui étaient là. Et puis, le train arrive à Pierre-Latte, j'allais partir, j'ai pris mes valises, j'ai encore 6 traités. Et très vite, avant que le train arrive, je retourne dans le wagon et je donne un traité à chacun. Je dis, écoutez, ça c'est pour vous, vous me demandez à quelqu'un de le lire, je suis parti. 18 mois plus tard, j'étais en Suisse, je reçois un téléphone, Yann, il y a un téléphone pour toi. Bonjour monsieur, on s'est rencontrés il y a quelque temps. On s'est rencontrés dans le train. Moi et mon mari, on est des non-voyants. Et puis, on aimerait vous inviter à notre baptême. Parce qu'on va être baptisés prochainement.
dans une église ici en Alsace. Est-ce que vous pouvez venir? La puissance de la parole de Dieu. J'ai presque rien fait. Est-ce que vous y croyez? Et je vous encourage cette semaine de parler à quelqu'un, de donner la parole de Dieu aux autres. Et Dieu, il fera tout le reste. Cette parole de Dieu. Et aussi d'expliquer aux autres l'évangile. Jésus, il reste avec eux. Il ne va pas partir. Jésus, il va rester avec eux. Et vous savez, pour expliquer la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Hein? Est-ce que vous serez capable de raconter votre témoignage dans une minute? Peut-être il faut le mettre par écrit. Hein? Et je vous encourage à approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. Il est dit dans Osée chapitre 4, verset 1, « Il y a point de connaissance dans ce pays, mon peuple. Il est détruit parce qu'il manque de connaissance. Parce qu'il a rejeté la connaissance. Cherchons à connaître Dieu. J'aime non les sacrifices, mais j'aime la connaissance plus que les holocaustes. » Et Dieu, il veut aussi qu'on nous puissions connaître la parole de Dieu. Je vais vous encourager. Écoutez bien, aujourd'hui, je vais donner gratuitement, et les conseils qui donnent gratuitement, c'est un miracle. Hein? Et je vais donner 10 livres comme ceci, gratuits, à des personnes qui vont le travailler. Ce sont des livres d'études que Françoise a traduits il y a quelques années, en avant numéro 1, pour que vous puissiez approfondir votre connaissance de Dieu. Et à la fin de chaque chapitre des questions, c'est sur, donc, comment connaître la parole de Dieu, comment témoigner, qu'est-ce que c'est une église, etc. Donc il y a 10 à disposition, et chaque personne qui prend, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que les Écossais sont généreux. Donc ça c'est à votre disposition, c'est exceptionnel, hein? C'est vraiment exceptionnel, et vous recevrez la facture à la maison. C'est pas vrai. Mais je vais vous encourager vraiment de prendre au sérieux, il faut que je termine. Jésus reste avec eux. Jésus, il va les ouvrir les yeux. Et puis Jésus, il va ouvrir leur esprit. Et Jésus aussi, non seulement il va ouvrir leur esprit, mais il va aussi leur donner un mandat. Il s'approche d'eux, il fait route avec eux. Il va leur dire des choses dont ils ont besoin d'entendre. Il va rester avec eux. Il ouvre les yeux, il ouvre leur esprit. Et puis aussi, il va leur donner justement un mandat. Un mandat pour l'évangélisation du monde. Dans le verset 46, il donne un fondement théologique, verset 46. Et il va, regardez bien le verset 44, puis il leur dit, c'est là que je vous ai, ce que je disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est une prédication christocentrique, christocentre. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la source de la puissance, frères et sœurs. Et alors voilà le mandat que Jésus nous donne. Et vous savez, nous avons une joie aussi lorsqu'on parle de cette puissance. Il nous donne un contenu théologique. Il donne aussi un étendue géographique. L'étendue, c'est toutes les nations jusqu'aux extrémités du monde. Et il donne aussi une dynamique. Quelle est cette dynamique? Une puissance qui vient d'en haut. Ce n'est pas votre témoignage, ce n'est pas votre vie, mais c'est Dieu qui travaille à travers vous. Il veut aussi vous utiliser. Je termine. Parfois, j'ai perdu la joie de témoigner. Parfois, la flamme a baissé. Hein? Et lorsque nous avons construit l'église à Pierre-Latte, on a monté le mur, on fait le toit. On était en train d'attaquer les finitions. Et vous savez, le plus long, le plus difficile dans un bâtiment, c'est les finitions. Si vous avez construit votre maison, vous le savez très bien. Et puis un jour, je dis, écoute, c'est bien, parce que moi, j'ai passé 4 ans dans la construction, hein, partie de mon temps pour construire cette église. Et cette église existe encore, grâce à Dieu. Et on n'avait pas beaucoup de membres à ce moment-là. Et je dis, mais il faut mettre le paquet dans l'évangélisation. Et je suis parti tout seul et je distribue des traités tout autour de l'église pendant l'après-midi. La semaine d'après, je reçois un téléphone. Bonjour monsieur, j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres. Je dis, c'est moi. Il dit, venez me voir, je veux vous voir. Vous ne pouvez pas me donner une Bible. Je suis peintre professionnel, quand j'ai entendu ça. Peintre de bâtiment professionnel, je dis, ah, nous avons un bâtiment. Et Michel m'a dit, mais j'aimerais venir à votre église. Et Michel est venu, il habitait dans la rue de l'église. Il est venu dans notre église. Et avant d'être chrétien, il dit, mais j'ai une proposition de faire, parce qu'on s'est réunis ici, il n'y avait aucune peinture. Il dit, mais j'aimerais me proposer pour faire tout le bâtiment. Hein. Il était déjà à la retraite. Et il a fait des choses merveilleuses pour nous. Vous allez voir si jamais vous allez à l'église de Pierre, là, c'est merveilleux. Nous sommes, et quelques semaines après, il s'est converti, il se fait baptiser. Sa femme se convertit, elle se fait baptiser. La puissance de la parole de Dieu. Mais ça commence aussi avec nous, la flamme dans notre cœur. Et je vais vous encourager dans ce sens, donc, de faire quelque chose, de parler de votre foi à quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais conclure. J'aimerais vous poser la question, votre cœur, est-ce qu'il brûle au-dedans de vous? Jésus s'approche de nous, il fait route avec nous, il reste avec nous. Il veut qu'on ouvre notre cœur, il veut ouvrir nos yeux, il veut ouvrir notre esprit. Pour l'évangélisation du monde, c'est le bateau que nous avons vu hier soir. Hein. Et avec 400 chrétiens à bord, 150 pays visités, plus de 45 millions de personnes qui ont été évangélisées, qui ont été touchées, parce qu'il y a un homme qui avait le cœur qui brûlait au-dedans de lui. Il a 80 ans maintenant, il viendra à Montpellier, donc dimanche prochain dans notre église, il s'appelle Georges Verwer. Il est vieux, mais c'est un vieux avec le cœur qui brûle. Hein. Peu importe votre âge, hein. Si votre cœur brûle, eh bien le Seigneur, il va faire tout le reste. Nous allons prier, prions. Quelques instants de silence. Laissez le Saint-Esprit agir au niveau de vos pensées, vos émotions, votre volonté. Parce que si le Seigneur touche votre cœur, d'autres personnes vont être touchées par votre cœur qui brûle. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu t'approches de chacun d'entre nous. Merci parce que tu te préoccupes de nos questions. Merci parce que ta parole, elle est vivante, elle est vraie, elle est puissante. Seigneur, je prie pour moi-même, veuille toucher mon cœur, veuille ranimer cette flamme dans mon cœur, Seigneur. Veuille toucher mon cœur, veuille réchauffer mon cœur pour que je puisse apporter ta parole et pour que mon cœur puisse brûler et que d'autres cœurs soient touchés. Tout cela, je demande dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.